France Inter.
Oui, bonjour Christophe de Clermont-Ferrand. Simplement, il faudrait un petit peu modérer le répondeur. Ça ressemble de plus en plus au répondeur de l'Abbatie Jésuite Daniel Mermet, avec des gens qui ont des avis sur tout et qui ont surtout des avis. Dans ma copropriété, on a coupé 2-3 fleurs, mais stop, c'est pas avec ça qu'on va apporter des vraies solutions. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.
Marjorie des Yvelines. Ben malheureusement, je vous appelle parce que j'écoute votre émission et vos invités illustrent exactement la raison pour laquelle les gens se désintéressent de la politique. Des débats stériles, des gens qui ont des avis différents et qui ne s'écoutent pas. Quand est-ce qu'on va s'intéresser à des choses concrètes et qui font avancer les sujets ? À moins de vivre dans une ville sans aucune nature autour de soi, il suffit d'ouvrir sa fenêtre pour voir que le changement climatique est un problème crucial. Alors, ok, on ne peut pas faire abstraction de tous les autres problèmes, en particulier des problèmes de coût de la vie. Et pour le reste, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de s'unir pour résoudre ce punaise de problème ? C'était mon petit coup de gueule de la journée. Merci pour vos émissions, au revoir.
Allô, c'est Bernard de Nantes. Très intéressante émission aujourd'hui, là, sur l'Europe. Mais je vois que c'est toujours pareil. Si Total Energy n'est pas cité, décidément, chez vous, c'est vraiment une obsession, hein, Total Energy. Lâchez-les un petit peu. Allez, au revoir.
Bonjour, Patrick de Metz. Je voulais revenir sur les propos de l'élu, les Républicains, qui affirmait aujourd'hui qu'il fallait produire plus avec moins de normes pour nourrir la planète. Moi, je comprends, on va nourrir les hommes. Cet argument, me semble-t-il, tombe quand on considère que l'on demande à la Terre aujourd'hui non seulement de nourrir les hommes, mais de nourrir nos voitures avec de l'éthanol, de nourrir des machines qui nécessitent du méthane. Je ne parle pas même pas des usines de production de biomasse. Je pense qu'il faut se recentrer l'agriculture sur la production alimentaire et non sur l'alimentation des machines. Merci.
Salut la Terre au carré, c'est Sarah qui vous appelle des Pays-Bas. Je réagis à l'émission hier sur les élections européennes. Tout d'abord, bravo à Mathieu et à Camille pour leur calme. J'étais vraiment effarée, inquiète pour notre avenir quand j'entends le niveau de polarisation de nos politiques de tous bords d'ailleurs, gauche, droite, peu importe. Nous avons fait ceci et pas vous, nananananer, on se croirait dans une cour d'école. Alors qu'en fait, on a besoin de coopération, comme le disait Éloi Laurent il y a quelques jours. Heureusement, il y a des gens comme Lucille Schmitt qui en donne un bel exemple, une voix polie et ferme dans ses convictions. Donc, en juin, tous aux urnes. Bonne journée.
Voilà, l'émission sur les enjeux des élections européennes vous a beaucoup inspiré sur le répondeur. On espère qu'elle vous donnera effectivement envie aussi d'aller voter le 9 juin pour l'écologie. 01 56 40 45 45 pour vos messages. La question du temps de travail est redevenue ces derniers temps, justement, un sujet politique et sociétal. Depuis le Covid, notre conception du temps consacré au travail, mais aussi à la famille et au loisir, a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, pour de nombreuses personnes, il s'agit de créer les conditions idéales pour trouver du temps afin de travailler mieux, de s'émanciper, de s'occuper des autres, de prendre soin de nos proches et d'adopter des modes de vie plus respectueux de la planète. S'il fait aujourd'hui figure de petite révolution, le débat sur la réduction du temps de travail n'est pas nouveau. Dès le 19e siècle, l'économiste et homme politique Paul Lafargue plaidait même pour le droit à la paresse dans un essai. Si la réduction du temps de travail est une revendication de longue date aussi des écologistes, en quoi travailler moins serait-il bon pour la planète ? Eh bien, c'est le dossier cet après-midi de la Terre au carré, en partenariat avec Reporter, le quotidien de l'écologie. Pour en parler, quatre invités à ce micro. La journaliste Héloïse Le Sier, la philosophe Céline Marty, l'écrivain Adrien Klent et l'enseignant Paul Monjotin. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et bienvenue, Élodie Le Sier. Vous signez donc pour Reporter.net un article sur la semaine de 4 jours qui est à découvrir donc aujourd'hui sur le site de Reporter.
Oui.
Et puis avec nos autres invités que je vais présenter dans un instant, il y aura énormément d'ouvrages. L'ère du temps libéré, Paul Monjotin avec Charles Adrissens. C'est aux éditions Les Nouveaux Possibles. Céline Marty, Travailler moins pour vivre mieux, un guide pour une philosophie anti-productiviste. C'est aux éditions Duno. Et puis Adrien Klent, Paresse pour tous ou encore La vie est à nous aux éditions Tripode. Voilà, avec toute cette biblio, on a de quoi faire pour cette émission. On en discute avec vous donc dans un instant et avec les messages qui arrivent sur franceinter.fr et sur le site de l'émission. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Avec de sacrées mamies, les aînés pour la protection du climat, association suisse de femmes de 73 ans en moyenne, ont réussi une sorte d'exploit hier, une condamnation de leur pays, la Suisse donc, par la Cour européenne des droits de l'homme pour inaction climatique. C'est une décision historique.
Et on va les entendre tout à l'heure, donc à 14h30. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Joël Levert avec Clément Huillet à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Dans toutes les enquêtes que l'on a faites, il en ressort toujours que les gens, particulièrement ceux qui ont moins de 40 ans, ne veulent plus s'identifier à leur travail. Chez tous les 30 ans et moins, enfin à 80%, la réponse est toujours « Nous, on n'est pas prêts de sacrifier notre vie pour le boulot et pour la profession. » Ce que nous demandons à notre travail, c'est premièrement d'être intéressant, de permettre une implication et d'être socialement utile et d'avoir un sens. Si ça n'a pas de sens, que ce n'est pas socialement utile et que ce n'est pas intéressant, alors c'est un gagne-pain. Et on veut pouvoir en changer aussi souvent que possible pour ne pas devenir idiot.
La voix du philosophe et journaliste André Gors, extrait d'une vidéo du site Focus. Faut-il travailler moins pour être, par exemple, plus écolo? Eh bien, c'est le titre de cet article que vous signez pour Reporter.net, Héloïse Lecier. Au moment où la question de la semaine des 4 jours revient abondamment dans le débat, la réduction du temps de travail, c'est pourtant une revendication de très longue date, hein, des écolos. C'est ce que vous nous rappelez aussi dans l'article.
Oui, tout à fait, hein, ouais. Dès le début. Donc, historiquement, c'est avant tout une revendication du milieu ouvrier, du mouvement ouvrier. Mais les écolos se sont saisis très vite de cette question de la réduction du temps de travail. Ce que n'est pas la semaine de 4 jours qui va être expérimentée là dans la fonction publique, c'est la semaine en 4 jours, donc c'est des journées plus longues. On n'est pas sur la réduction du temps de travail.
Absolument, la nuance est importante. Oui. Céline Marty, la voix d'André Gors, évidemment, elle est inspirante aussi pour vous, j'imagine. C'était une des grandes voix de ce sujet, d'ailleurs. Hein.
Oui, tout à fait. C'est André Gors qui, dans les années 70, parle de travailler moins pour vivre mieux, de travailler moins au point... Alors, parfois, il envisage même 20 heures par semaine. C'est le premier à parler de décroissance, aussi, avec le concept en 72. Donc vous voyez que chez Gors, pour l'écologie politique qui est critique de notre mode de vie productiviste, il ne s'agit pas simplement de travailler moins quelques jours, enfin de travailler un jour de moins mais pour travailler tout autant, mais il s'agit d'utiliser la réduction du temps de travail pour en fait tout changer, changer toute la société et pour changer aussi le volume et le contenu de ce qu'on produit. Parce qu'il ne s'agit pas de garder des gains de productivité en étant plus efficace en 4 jours, mais il s'agit vraiment de travailler moins aussi pour produire moins. L'intuition, l'analyse scientifique qui était derrière l'idée de Gors, elle venait de Nicolas Georgescu-Rogan, à savoir que toute activité de production est une activité de destruction des ressources. Même le recyclage, etc., n'arrive pas à tout recycler à 100%. Et donc, puisque toute activité de production consomme des ressources, il faut nécessairement limiter la production.
Voilà. Alors, on va en parler parce que c'est aussi un sujet qui pose question, parce qu'avoir du temps, ça peut aussi être consommé plus, hein, pour ceux qui ont en tout cas les moyens de le faire. Adrien Klent, il y a un personnage justement que vous avez imaginé et qui fait penser aussi d'ailleurs à René Dumont, hein, qui était dans le combat politique, qui s'est présenté à la présidentielle dans les années 70. Et le personnage que vous avez imaginé justement, vous, il s'engage aussi dans une campagne pour la présidentielle avec cette idée justement, hein, de réduire le temps de travail.
Oui, tout à fait. Ça serait comme un René Dumont, mais un René Dumont de notre époque.
Du 21e siècle,
peut-être,
ouais.
Voilà, exactement. Peut-être un peu moins fantaisiste dans le look, mais un tout petit peu plus rigoureux dans le projet économique, puisqu'en fait, mon personnage, c'est un économiste en réalité. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à travailler sur la question du temps de travail.
Ouais.
Et à un moment, alors moi, je situe dans mon roman, c'est le moment du confinement, justement, le moment de bascule pour lui. Il décide d'écrire un livre qui va intituler donc Le droit à la paresse au 21e siècle. Et donc, en fait, il va remettre au goût du jour ce fameux droit à la paresse. Et en effet, ça va le mener dans une campagne électorale.
La députée écolo Sandrine Rousseau revendiquait elle-même d'ailleurs un droit à la paresse, comme elle l'expliquait sur LCI le 1er février dernier.
Le droit à la paresse, on le voit dans toutes les statistiques. Il y a une personne sur deux en France qui imagine pouvoir démissionner de son travail. Tous les métiers à contrainte, je pense à tous les métiers du soin, sont boudés aujourd'hui. Et les métiers de la restauration, etc., sont des secteurs en tension. Ils sont boudés par les personnes. Aujourd'hui, on arrive à la limite de la planète et de nous-mêmes. Et combien de personnes sont en mauvaise santé sur leur travail ?
Ce serait quoi ? Ce serait un genre de droit opposable ?
Non, ce serait une diminution du temps de travail et c'est un droit. C'est un temps où on a le droit de prendre soin de soi, où on a le droit de ne pas être productif.
Voilà, Sandrine Rousseau, donc sur LCI le 1er février dernier, Adrien Klent, la paresse, c'est encore un concept qui est très mal vu aujourd'hui, assez péjoratif. Hein. C'est vraiment le glandeur finalement, le paresseux. Hein.
Voilà, justement, et c'est pour ça que c'est important de revenir à l'origine de l'expression le droit à la paresse. Quand Lafargue invente cette expression, ce livre qu'il écrit, le droit à la paresse, c'est en réalité pour s'opposer au droit au travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié, c'est qu'en 1848, au moment de la révolution de 48, en fait, il y a tout un mouvement de gauche qui réclame le droit au travail, c'est-à-dire disant, mais en fait, en confondant, et c'est tout le problème de ce débat qu'on a souvent, c'est qu'il faut faire attention à ne pas confondre le travail et le revenu. Et en réalité, quand les révolutionnaires de 48 demandent le droit au travail, en fait, ce qu'ils demandent, c'est que les gens aient un travail, c'est-à-dire gagnent leur vie. Et Lafargue, lui, il s'offusque, il dit, mais attention, il ne faut pas du tout revendiquer un droit au travail, mais bien le contraire, un droit à la paresse, il faut au contraire moins travailler, mais bien entendu, il faut quand même avoir un revenu. Et c'est tout le problème, si vous voulez, du mot paresse. En fait, il faut bien comprendre que quand on défend le droit à la paresse, aujourd'hui, c'est pas la glande, c'est simplement refuser l'ordre, on va dire, productiviste, consumériste, classique, l'ordre libéral dans lequel on est pris depuis plusieurs décennies sans pouvoir vraiment appuyer sur le...
Donc vous remettez au goût du jour un vieux concept, en réalité, hein, qui remonte donc au 19e avec Paul Lafargue, avec ce livre qu'on peut lire encore d'ailleurs aujourd'hui. Paul Mongeotin, derrière ces questions, il y a le sentiment aujourd'hui de manquer de temps. C'est ce que vous expliquez aussi, vous, dans votre ouvrage. C'est le temps de la France post-Covid, hein, dont vous parlez dans l'ère du temps libéré, parce que ça a changé la vie de beaucoup de gens, finalement, cet épisode.
Oui, tout à fait. C'est l'une des dimensions de notre essai. On constate une évolution du rapport au travail. Et il y a un sondage, notamment de l'IFOP, qu'on cite en introduction, où c'est 60% des Français qui sont prêts à travailler moins pour avoir plus de temps. Donc c'est une aspiration qui s'est exprimée aussi au moment du mouvement social contre la réforme des retraites. On a vu la résurgence de la valeur du temps personnel. Et c'est vrai que plus largement, nous on analyse aussi comme la période actuelle comme une crise du travail. Et je rebondis sur ce qui a été dit précédemment. En fait, le travail, normalement, c'est l'activité par laquelle l'homme transforme le monde pour le rendre habitable. Mmh. Et aujourd'hui, c'est le travail de l'homme qui menace les conditions de vie sur Terre. Et on voit bien que ça entraîne une modification du rapport au travail, une forme de défiance aussi qui est exprimée dans la jeunesse avec le mouvement pour un réveil écologique. Et je crois que ce qui est intéressant avec le droit à la paresse, c'est qu'il pose de manière provocante une question tout à fait sérieuse qui est « Pourquoi travaillons-nous ?»
Ouais, et c'est pas forcément annuler l'idée du travail, parce que on en parlera aussi tout à l'heure, mais vous dites bien qu'il y a du bénévolat aussi qui occupe énormément de Français aujourd'hui. Il y a les activités liées aux aidants, les familles qui sont disponibles justement pour les personnes dépendantes ou qui nécessitent des soins. Et ça fait partie aussi d'un travail qu'on pourrait reconnaître et qui serait mieux envisagé si justement on était libéré du travail qui nous permet de gagner notre vie.
Oui, tout à fait. En fait, nous, dans cet essai, on n'oppose pas le temps libre au travail, parce que c'est vrai qu'il y a souvent une forme de confusion qui est faite. Le travail se réduit pas à l'emploi marchand. Et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on réduit un petit peu le temps libre à une forme d'oisiveté. Mais en réalité, effectivement, vous l'avez rappelé, il y a 20 millions de Français en France qui donnent du temps chaque année dans les associations. Vous avez les proches aidants. Et donc, nous, ce qu'on défend aussi, c'est de dire il faut reconnaître des activités qui ont une utilité pour la société en dehors de la sphère marchande.
Céline Marty, dans votre ouvrage, vous revenez sur un des mythes, sur la définition subjective et existentielle du travail. Ça, c'est intéressant aussi, hein, sur cette activité qui serait une activité d'épanouissement et de reconnaissance personnelle. Là-dessus aussi, vous expliquez qu'il faut faire très attention à ça, finalement, hein, parce qu'on n'est pas obligé forcément de trouver le travail qui nous convient. Hein.
Oui, et puis d'un point de vue même macro, au niveau de toute la société, cet engagement subjectif dans le travail nous empêche de questionner collectivement finalement ce dont on a besoin, quelles sont les activités prioritaires, et la question de l'épanouissement par l'activité et de l'emploi et donc des revenus qui permet aussi vient toujours pour éviter tout débat. On l'a vu avec les poils téflons, on a tout de suite le débat sur il y a des emplois derrière. Il y a des gens qui ont fait ça pendant 20 ans. Ah oui, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas questionner la production, comment on le fait, avec quels moyens, etc. Et moi, je pense qu'il faut qu'on en revienne à une conception instrumentale du du travail, qui est de dire le travail, c'est l'activité par laquelle l'humain aménage son monde, satisfait ses besoins collectivement, avec des ressources qui sont collectives, qui sont rares, qui sont finies, comme l'eau par exemple. Et donc, il faut qu'on puisse délibérer politiquement, déterminer ce qu'on veut produire, quels sont les besoins prioritaires, plutôt que de décider, laisser en fait décider le marché de des parts de marché. Et donc, s'il y a un nouveau business à monter, c'est légitime parce qu'il y aura des financeurs et des banques. Je pense qu'il faut se dire que chaque activité de production doit résulter d'un choix politique, finalement.
Donc, ça réinterroge beaucoup hein, notre approche, notre notion et la façon dont on se sent aussi avec ce fait de travailler. Et puis, on verra ce qu'on peut y gagner aussi du point de vue écologique, Héloïse Lecier, parce que c'est ça la question aussi pour nous aujourd'hui.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que réparer plutôt que d'acheter du neuf, cuisiner plutôt que d'avoir des plats tout prêts, voyager plus lentement, tout ça, c'est du temps. Et beaucoup de gens, en fait, aspirent à avoir plus de temps aussi pour avoir ce mode de vie plus écolo, c'est
sûr. Et il y a des études là-dessus qui montrent en quoi on peut y gagner. On va en parler dans un instant. Dossier travail, donc, aujourd'hui. Et on attend avec impatience vos réactions sur franceinter.fr. Maxwell Farrington et le Super Omar, c'était Hexagone sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Aussi faut que tu remues, tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? On a le temps, faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Regarde-les, d'un bout du champ à l'autre, ils courent. Après quoi, je te le demande, hein? Crevés comme moi, ils sont le soir. Ils s'endorment fatigués et ils se réveillent plus fatigués encore. Et ça continue. Et ça n'en finit pas de durer d'être pareil. Pareil qu'on condamne des gars aux travaux forcés. Travaux forcés, je connais. Bouge pas comme ça, tu me fatigues.
Alexandre, le bienheureux film d'Yves Robert en 1968 avec Philippe Noiret. Faut-il travailler moins pour être plus écolo? Dossier cet après-midi avec reporter.net, le quotidien de l'écologie pour lequel Héloïse Le Sieur, vous avez donc rédigé cet article dans lequel d'ailleurs vous nous dites qu'on trouve des études qui documentent la question du temps dégagé par un troisième jour, par exemple, de temps libre dans la semaine et les conséquences en matière d'écologie. Alors qu'est-ce qu'on a vraiment comme littérature scientifique?
C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait se dire peut-être que ce jour de libre, il pourrait être utilisé à plus consommer. Mais dans ce cas, on ne serait pas vraiment
quand
dans
les faits. Quand on a des moyens, on est tenté de le faire.
On a d'ailleurs des messages sur franceinter.fr pour ça, Emma notamment, qui dit qu'il n'y a qu'à voir les centres commerciaux les week-ends.
Oui, mais en fait, il y a, moi je cite notamment un sociologue qui s'appelle Jean-Yves Boulin, qui montre que les personnes qui ont un jour de week-end en plus, ce jour, elles vont l'utiliser pour passer du temps avec leur famille, cuisiner, jardiner, donc a priori pas faire des choses qui vont dans le sens de plus abîmer la planète, mais plutôt dans un mode de vie plus calme, plus sobre. Et puis, inversement, on a aussi des études, et il y en a notamment une des économistes François-Xavier Devetter et Sandrine Rousseau qui montrent que plus on travaille, plus on a d'argent et plus on consomme, et plus on a aussi des comportements qui vont avoir un impact plutôt négatif sur l'environnement.
Adrien Klent, on a des chiffres justement là-dessus, en matière de calcul, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'en travaillant moins, on baisse sensiblement l'empreinte ou pas?
Alors, il faut l'organiser. C'est-à-dire que si en effet, les gens ont un jour de travail de moins, mais en revanche, utilisent leur bagnole pour aller faire autre chose, on va pas y gagner. Mais ce que je dirais justement sur cette question de ce qu'on fait de ce temps libéré, c'est qu'il y a une forme d'éducation à donner aussi aujourd'hui au non-travail, au moins de travail. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est-à-dire qu'en effet, quand on a été biberonné à la surconsommation, quand on voit des pubs partout, c'est pas complètement illogique que le samedi venu, on se dise, là, je vais cramer mon salaire dans les centres commerciaux. Donc c'est aussi un travail de déconstruction qu'il faut faire en même temps. Je veux dire, il y a un enjeu qui est politique. Réduire le temps de travail, c'est aussi faire réfléchir à ce que veut dire moins travailler. C'est pas simplement dire, vous avez plus de fric à dépenser, vous allez prendre des abonnements premium chez Netflix pour pouvoir avoir encore plus de séries, vous gaver, etc.
Donc c'est politique et social, parce qu'il faut engager un vrai débat sur la question aujourd'hui.
Bien sûr, hein. On peut pas réfléchir sur cette question du travail et évidemment de l'écologie sans réfléchir à l'enjeu vraiment de la société. Tout à l'heure, Céline parlait bien de ça, il y a un enjeu de société, c'est nous collectivement en fait qui devons réfléchir. Il faut pas simplement se déléguer ça à une mesure, on va dire, technique, disant on passe à la semaine de 4 jours. En fait, c'est pas si simple, il y a beaucoup de réflexions.
Juste avant de passer aux questions des auditeurs, Céline Marty, parce qu'il y avait ce slogan « Travailler plus pour gagner plus » hein, de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, certains disent « Travailler moins, quitte à gagner moins aussi », donc on est complètement à l'opposé. Mais est-ce que cette histoire au fond, est-ce que ce débat sur travailler moins, ça vient d'abord de la gauche? C'est-à-dire que est-ce que ce sont les glandeurs de gauche opposés aux besogneux de droite?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de quand on étudie l'histoire du temps de travail sur une échelle très longue, ce qu'ont fait deux historiens dans un livre qui s'appelle Les rythmes du labeur, on voit qu'en fait, à la Renaissance, même sous l'Ancien Régime, il y a énormément de fêtes, il y a énormément de jours fériés, et que la façon dont on travaille en continu s'est imposée avec le capitalisme industriel. Que c'est le capitalisme industriel qui a eu besoin de faire tourner en permanence les machines, et donc qui a essayé de rendre illimité le temps de travail. Et face à ces transformations du capitalisme industriel, le mouvement ouvrier s'est organisé pour réduire la journée et la semaine de travail. Mais c'était finalement une sorte de réaction face à un mouvement qui était venu déstructurer les rythmes du travail, qui était totalement différent quand vous étiez dans un mode de vie beaucoup plus agricole et paysan, où en fait vous alterniez toute la journée des activités qu'on appelle de subsistance, et donc vous ne dépendiez ni du salaire pour votre travail, ni du salaire pour vos marchandises, pour consommer des marchandises dans les centres commerciaux. Et donc c'était un autre mode d'existence. Donc on pourrait dire que la gauche et le mouvement ouvrier se sont organisés pour réduire le temps de travail et avec toujours une opposition des élites. Et ça, par exemple, le philosophe Russell le dit dans L'éloge de l'oisiveté en 1932. C'est les élites qui ne veulent pas de l'oisiveté des classes populaires. C'est les élites qui ne veulent pas...
On voit Gabriel Attal, quand il dit justement faire la même semaine mais en 4 jours, c'est vraiment ne rien céder précisément
sur... Tout à fait, rien céder sur la réduction du temps de travail. Et il y a déjà, face au congé payé dans les années 30, il y a déjà une opposition en disant, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces pauvres de leur temps libre?
Ils vont aller à la mer, par
exemple.
Quelle honte!
Qu'est-ce qu'ils qu'ils vont faire?
Question, enfin plutôt message très intéressant que je vais vous lire. Je vais vous demander de réagir, notamment Paul Jotin. Clément nous écrit, je suis maraîcher bio, je trouve ça aberrant de dire qu'il faut travailler moins. Si on veut réduire la consommation d'énergie, c'est en remettant des bras dans les champs et les productions. C'est un mythe de bobo de croire qu'on peut manger bio local avec des agriculteurs ayant un engagement pour l'environnement. Réduire le temps de travail en marketing, vente, production inutile, oui, mais pour le remettre à des besoins de base, pour les décarboner, décroître, c'est travailler plus avec moins de pétrole.
Oui, bah justement, c'est ce que je m'apprêtais à expliquer. Nous, on défend, moi, ma conviction, c'est que effectivement, l'impératif écologique nous amène à nous réinterroger sur le travail. Alors, effectivement, à de nombreux égards, en fait, pour décarboner notre économie, il va falloir produire des choses, c'est-à-dire électrifier des usages, produire de l'électricité bas carbone. Il va falloir rénover les bâtiments, 700 000 bâtiments par an à peu près à horizon 2030. On va devoir multiplier par 3 les capacités de production sur les par 4 sur le photovoltaïque. Enfin, donc, on voit bien que derrière cet effort-là, on va avoir besoin de travail humain. Et donc, je pense que la question aujourd'hui, c'est plus de dire comment on réinterroge le travail autour de l'essentiel, des besoins essentiels pour la société.
L'agriculture, par exemple, si on veut éviter la mécanisation, il faut d'autant de mains pour faire le boulot. Donc là, c'est plus de travail, précisément.
Oui, sans doute. Il y a des secteurs où effectivement, on va avoir la productivité augmente dans les services, on voit avec l'intelligence artificielle. Et puis peut-être que si on développe une agriculture plus respectrice du vivant, peut-être qu'on va perdre en productivité. Donc, mais nous, on défend pas dans le livre libérer le temps libéré, c'est redonner à chacun la maîtrise de son temps. C'est pas.
Et parfois pour travailler aussi, on le disait avec le bénévolat, par exemple.
Mais la question au centre, parce que Clément utilisait le mot le temps de travail inutile. Qu'est-ce qui peut définir, comment on définit, Adrien Klent, ce qui est utile ou inutile? Est-ce que demain, un écrivain peut être jugé inutile? Est-ce qu'un chercheur peut être jugé inutile? Pourquoi pas?
Non, mais vous avez bien raison, moi, je suis tout à fait d'accord pour considérer que je ne suis pas complètement utile à la société, puisqu'on pourrait se passer de mes livres. Mais je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a un certain nombre de besoins primaires qui sont essentiellement de se nourrir, d'avoir un toit. Donc c'est sûr qu'on va mettre ça en priorité, on va dire, dans les besoins. Mais,
parce que tout le monde va dire, moi je suis utile, quelqu'un qui bosse dans le marketing,
il va falloir qu'il le démontre. On pourrait imaginer un système de consensus. On pourrait faire une convention citoyenne sur l'utilité des travaux des différents métiers et puis demander à tout le monde de mettre des notes de 0 à 100 sur l'utilité du travail. Mmh. En effet, se demander si quelqu'un dont les fameux bullshit jobs, ça va être très bas. En effet, le marketing, le fait de donner envie d'acheter un truc pas bon, je pense que beaucoup de citoyens seraient d'accord pour considérer qu'on va pas donner une très bonne note. Et en effet, on peut imaginer que l'enseignement, ça va être considéré comme très bien, que la culture, ça sera plutôt pas mal, mais sans doute pas tout en haut, etc. Enfin, je veux dire, on peut trouver un consensus pour justement déterminer la question de l'utilité. Et je reviens là sur ce que vous disiez sur la question de la terre, quoi. Il est évident que dans une société, on va dire, moins dans la furie du pétrole, etc., on aura besoin de plus de main-d'œuvre. Ouais. Mais encore une fois, on aura libéré aussi tous ces gens qui, en effet, utilisent beaucoup de temps pour derrière leur tableau Excel, mais on va les libérer. Ouais. Et donc, ils vont pouvoir mettre un petit peu la main à la pâte.
Allez, on vous retrouve dans un instant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce dossier, mais pour le moment, on va retrouver des mamies qui, elles, ont bien bossé aussi, d'ailleurs, de leur côté.
France Inter, la Terre au carré.
14h32, on passe au vert, Camille Cronier.
Avec la décision hier qui a fait la une un petit peu partout, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme de condamner un pays pour son inaction climatique, à savoir la Suisse. C'est une première, jamais l'instance supranationale n'avait rendu ce genre d'arrêt.
Beaucoup de fierté parce que quelque part on a écrit l'histoire.
La voix d'Anne Maurer, coprésidente de l'association suisse à l'origine de cette décision, les aînés pour la protection du climat.
2500 membres. Moyen âge, 73 ans, oui.
Eh oui, 73 ans de moyenne d'âge. Aucune membre, ce ne sont que des femmes, n'est acceptée si elle n'a pas 64 ans au moins. Ce sont donc bien des mamies, comme elles disent, qui se sont mobilisées. Elles avaient déposé un recours en 2020, après s'être fait jeter par tous les tribunaux en Suisse. Stéphanie Brander, autre retraitée militante, le rappelle.
Franchement, on n'a pas trop pris au sérieux les mamies qui vont devant la cour se plaindre, qu'elles soient un peu plus concernées que les autres. On a été déboutés dans tous les niveaux des tribunaux, jusqu'au tribunal fédéral, qui apparemment a sous-estimé le cas. Et donc là, c'est la première fois qu'on a vraiment établi une liaison claire entre les droits de l'homme et la protection du climat.
Les 17 juges ont estimé qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui concerne la santé et la qualité de vie notamment, et de l'article 6, le droit d'accéder à un tribunal. Raphaël Main est l'un des avocats de l'association.
En des termes peut-être peu juridiques, mais voilà le cœur du raisonnement, la Cour ne pouvait pas nier que ces dérèglements climatiques ont des conséquences sur la santé et parfois même la vie des habitants de cette planète. Et en l'occurrence, avec les aînés, nos clientes, ces personnes très vulnérables, c'était d'autant plus manifeste.
Une décision contraignante qui en plus s'applique aux 46 pays membres du Conseil de l'Europe, et oui, et qui fait jurisprudence, c'est-à-dire que tous les tribunaux doivent s'aligner dessus, doivent l'appliquer. Mais comment la concrétiser ?
Les buts sont juridiquement contraignants, les réductions, objectifs de réduction de gaz à effet de serre sont juridiquement contraignants. Les moyens pour parvenir à ces buts, ça, c'est du ressort des États.
Et pour veiller à ce que ce soit fait, il existe un truc qui s'appelle le comité des ministres, où il paraît que si tu te fais afficher et tirer les oreilles, ça la fout assez mal sur la scène internationale. Bref, nos aînés savent bien que ce n'est que le début.
On va rester mobilisés, hein. C'est pas terminé. Ça veut pas dire que tout va rouler sur des patins, là, maintenant.
Tout ne va pas encore rouler sur des patins, me disait de son train Stéphanie Brander, arrivée il y a 2 ans dans l'association.
La thématique m'a toujours préoccupée, notamment à partir de 2003, de cet été caniculaire que j'ai vécu comme un cauchemar, où j'ai vraiment pour la première fois pris la mesure de ce qui peut nous attendre. Et puis, le déclencheur de m'y engager à fond, c'était l'injustice qui m'a sauté aux yeux quand les jeunes activistes climatiques qui ont investi les locaux de Crédit Suisse, qui les a poursuivis et qu'ils ont écopé des peines.
Voilà, la solidarité intergénérationnelle, comme quoi la lutte contre le changement climatique, c'est pas qu'un truc de jeunes.
J'ai 75 ans, j'ai de l'énergie. Je suis en santé, c'est pour ça que j'ai tenu le coup jusque-là. Et je me suis dit, mais je prends de la retraite, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. On ne peut pas prendre sa retraite, c'est trop urgent. Donc j'ai accepté, je me suis lancée dans cette association. Eh bien, je ne le regrette pas.
Anne Marère était là dès le départ en 2016, après une vie de bibliothécaire en collège et aussi de militante.
Ah oui, oh là là! Oh là là, j'en ai fait de ces manifs, oh là là.
Elle a même été députée des Verts, mais l'aventure n'a pas toujours été facile. Exemple ?
Des commentaires tout à fait détestables. Retournez à vos tricots, occupez-vous de vos petits-enfants, faites-leur des tartes aux pommes et rentrez dans votre cuisine.
Sympa, des remarques aussi de la jeunesse elle-même.
L'état de la planète tel que vous nous l'a laissé, c'est de votre faute. Parce que vous avez vécu les 30 glorieuses, le tout au pétrole, à la voiture, à l'avion, etc., etc. Ils ont raison, il y a aussi quelque chose à dire. Mais nous prenons nos responsabilités et nous menons l'action judiciaire et finalement, nous faisons l'histoire.
Comme quoi, l'union fait la force. Elle a d'ailleurs un message à délivrer, notre aînée en chef, que Greta Thunberg a salué hier à Strasbourg.
J'ai rencontré aussi beaucoup de jeunes très découragés. Et ça, pour moi, c'est insupportable. J'ai envie de leur dire, ne lâchez rien. Et je pense que la société civile a un rôle majeur à tenir face aux politiques. Donc, accrochez-vous, ne lâchez rien. Et puis, sachez que vous n'êtes pas tout seul et que maintenant, vous pouvez vous référer à cet arrêt de la Cour. Exiger de vos pays respectifs que vos droits soient respectés.
D'ailleurs, la Cour de justice internationale à La Haye, cette fois, examinera en début d'année prochaine les responsabilités de tous les gouvernements européens en matière de justice climatique, à la demande encore de ces sacrés aînés pour le climat.
Ah, et qu'on a envie d'embrasser hein, et d'applaudir bien fort.
Bien.
On salue Anne d'ailleurs, hein, qui est
fidèle auditrice de La Terre au Carré.
Voilà. Ça vous a plu, Adrien Clint?
Ouais, c'est génial. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait hors micro de la question de qu'il fallait pas obliger les retraités à travailler parce que justement, on parlait de la question de la mesure du temps de travail. Et bon, voilà, là, on est typiquement dans le cas du bénévolat de retraités.
Et voilà ce qu'on fait quand on a du temps aussi. Hein.
Exactement. Et c'est vrai que le temps, il faut toujours garder à l'idée que on doit présupposer que les gens vont faire quelque chose de bien de leur temps et pas quelque chose de pas bien. Et en fait, il faut avoir cet espoir-là. Il faut encore, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une forme d'éducation populaire auquel le Front Populaire aussi a beaucoup cru. Hein. Je veux dire, offrir plus de temps, ce qui était il y avait un secrétaire d'État au temps libre, hein, sous Léon Blum, c'était pas complètement anodin. Ça voulait dire qu'on croyait au fait qu'il fallait justement penser la question du temps libre. Mmh. Ça a été rouvert en 80 sous Mitterrand et ça a duré 2 ans et puis ça a disparu. Mmh.
On va l'écouter Mitterrand, tiens d'ailleurs, puisque en 1981, eh bien, il remettait lui aussi au goût du jour cette idée de travailler moins.
Les 35 heures. Quel est ce débat ? Réduire la semaine de travail à 35 heures. Je voudrais rappeler aux socialistes qui sont ici que c'est toute la bataille menée depuis le 19e siècle qui se trouve ainsi résumée. La bataille pour le temps de vivre.
Voilà, avril 81 à Metz, hein, en pleine campagne, donc évidemment, et ensuite les 35 heures.
Camille. J'ai juste une question par rapport à ça, le temps de vivre. En fait, il y a plein de gens qui sont hyper contents d'être au travail, on va dire, normal, si je dois mettre des guillemets, Céline Marty.
Oui, on pourrait dire que ce temps de
vivre... Des gens vont dire, mais moi je suis super content en fait.
Ce temps libéré, c'est aussi un temps dont vous ne justifiez pas de l'usage que vous en faites. Et typiquement, vous êtes à la retraite, vous pouvez choisir de ce que vous faites de votre temps. C'est quand même assez l'inverse dans l'organisation actuelle du temps de travail. Dans les réformes mises en place, aussi bien avec l'assurance retraite que l'assurance chômage, où on cherche en fait à faire en sorte que les gens soient à leur emploi, parce qu'on présuppose que finalement, c'est mieux quand ils se plient aux ordres qu'on leur donne dans le cadre de leur emploi que quand ils ont du temps pour faire ce qu'ils souhaitent faire. Donc je pense que ce temps de vivre, c'est aussi un temps qu'on ne justifie pas. Et c'est super important justement de dépasser même l'argument de l'utilité du temps libre ou l'utilité sociale ou autre en disant c'est un temps sur lequel ni l'employeur ni l'État n'a de contrôle.
Allez, on y revient dans un instant. C'est le dossier de la Terre au carré avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr.
De secours aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour se joue le bal de la vie et de ses amours, ce qui s'efface et ce qui resteront toujours.
Un grand bal qui s'étale ravissant, insensé, 100 000 âmes qui s'emballent devant mes yeux cloués. Certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance en quelques pas de danse, c'est vrai.
J'ai flanché, genoux au sol. On a dansé sous les balles folles.
Dans cette salle sans issue de secours,
brillant le bal me rappelle à mes amours.
Premier fil se confondra d'autres contours.
Qu'un coup de cils m'a fait perdre pour toujours.
C'est sans mal, je l'avoue, que déroule sous mes doigts une première cavalière, une deuxième et puis trois.
Je m'emballe et me perds dans cette salle bondée où tourbillonne autant de beauté.
J'y perdrai.
Mes yeux se figent sur un beau portrait qui semble lassé d'une étreinte trop serrée. D'un geste se dégage, fendant l'assemblée, me rejoint pour une danse à ses côtés. On a dansé des années à perdre la tête. J'en garde encore quelques ampoules assez discrètes, mais souvent les valses se soufflent avant la fin. On est proche et pourtant bien assez loin.
Le bal, c'était Voyou et Vanessa Paradis.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Quel mal du siècle va disparaître avec la semaine de 4 jours? Pour moi, le principal, c'est la réunionnite. Les réunions incessantes, interminables, le fameux lundi 9h, réunion d'équipe. 90% de la réunion te concerne pas du tout et tu dois attendre les 10% où c'est toi qui parles. Et en fait, on a réalisé que toutes ces réunions où chacun parle de ce qu'il est en train de faire au lieu de le faire, c'était pas la meilleure utilisation du temps de tout le monde. On est dans des sociétés européennes développées où il n'y a plus assez de naissances. Peut-être que si on bosse 4 jours, on a plus le temps de prévoir une vie sentimentale, des petits rencarts, des petits moments intimes. Bosser moins, baiser plus.
L'humoriste suisse Thomas Wiesel en 2023. Travailler moins pour vivre mieux. Question posée dans le dossier de la Terre au Carré en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie, avec Héloïse Lecier, donc journaliste, la philosophe Céline Marty, l'écrivain Adrien Klent et l'enseignant Paul Monjotin. Héloïse Lecier, combien de salariés aujourd'hui en France ne travaillent que 4 jours par semaine?
Alors, on a trouvé le chiffre de 10 000 salariés, sachant qu'aujourd'hui, alors, il y a une...
Non, mais il y a tous les salariés à temps partiel. Oui. Il y a toutes les mères qui ont pris leur mercredi.
Donc là, on parle de ceux qui sont dans des entreprises qui ont décidé de passer à la semaine de 4 jours.
10 000, et... c'est vraiment pas beaucoup.
C'est rien. Parce qu'en fait, il y a des entreprises qui le proposent, mais tout le monde n'est pas d'accord. Parce que si c'est la semaine en 4 jours, tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir des journées plus longues. C'est pas parce que c'est proposé par les entreprises que tout le monde a envie de faire. Parce que la majorité des entreprises qui font la semaine de 4 jours, c'est bien 35 heures en 4 jours et c'est non ça. Pas 32 heures. Alors il y a quand même
payé 35.
Ouais, hein. Voilà. Donc il y a quand même une entreprise, c'est LDLC, une entreprise informatique qui est passée à la semaine des 32 heures. Donc
payé
il y en a
35 justement.
Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est clairement pas la majorité des entreprises qui le font et en plus les motivations écologiques ne sont pas les premières motivations à la semaine des 4 jours. C'est plutôt le bien-être et la productivité.
Donc, on va écouter le patron Laurent de la Clergerie en septembre dernier sur France 24 justement pour expliquer ça.
Dans les critiques que je peux avoir, on me dit « Ok, tu gères une ONG dorénavant ». Non, aujourd'hui j'ai une des boîtes qui dans son secteur est l'une des plus rentables. Juste avant la période Covid, on faisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1050 collaborateurs. On est passé aux 4 jours 32 heures et on est monté à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 40% de chiffre d'affaires en plus. Et on est resté 1050 collaborateurs. L'absentéisme s'est divisé par deux, les accidents de travail sont divisés par deux, le turnover s'est divisé par quatre. Et donc pour l'entreprise, là où moi je m'attendais à ce que ça coûte de l'argent, finalement ça en a rapporté. Parce que, je vais dire quelque chose qui va paraître un total contresens, mais on travaille plus, mieux et sans se fatiguer en 4 jours 32 heures qu'en 5 jours 35 heures.
Paul Monjotin, c'est tout bénéf finalement pour l'entreprise là, hein?
Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une dynamique alors qui n'est pas nouvelle, mais autour de la semaine de 4 jours. Et on voit que pour beaucoup d'entreprises et notamment des associations, c'est aussi un levier d'attractivité, un moyen d'attirer des jeunes qui sont sensibles à ces sujets dans un contexte où les salaires n'augmentent pas beaucoup. Et puis, effectivement, comme le dit Laurent de la Clergerie, on voit dans les entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours une baisse du turnover.
Y a aussi le productivisme, finalement, Céline Marty, parce qu'on entend là dans ses propos que c'est tout bénef. Parce que bon, si les employés vont mieux, tant mieux, mais c'est surtout parce que l'entreprise se porte mieux aussi, elle.
Et puis on fait parler de lui, ça fait un petit coup de pub au passage. Alors, tout à fait pour l'enjeu du productivisme, c'est pour ça que je pense que quand on parle de réduction de travail, du temps de travail pour des enjeux écologiques, il faut aussi parler de réduction du volume et du contenu de ce qu'on produit. Il ne s'agit pas de produire toujours autant, mais plus efficacement.
Et là, on n'y est pas. Hein. C'est pas ce que nous dit cet exemple.
Hein. Et c'est ce qu'on pointait tout à l'heure. Finalement, on est dans un régime de surproduction. Notre régime économique est en surchauffe. On produit énormément de choses dont on n'a pas besoin. Donc, on pourrait discuter l'ampleur de ça. Mais ne serait-ce que sur le plan agricole, il y a un tiers de la production agricole qui est gâchée avant même d'arriver dans votre frigo. Donc, on est dans un régime qui produit énormément et qui ensuite a des logiques de destruction de la production, aussi bien au niveau agricole qu'au niveau des entrepôts Amazon. Donc, face à la surproduction, peut-être que l'enjeu, c'est de déplacer la question de la sobriété, qui là se pose exclusivement en matière de consommation, d'énergie, de viande, d'avion, etc., en la plaçant sur le travail, en se demandant ce que serait un travail plus sobre.
C'est ça. Et vous nous mettez un beau bordel dans la société aujourd'hui, parce qu'il faut en discuter en tout cas.
Pourquoi on ne parle pas de sobriété au travail? Pourquoi on parle de sobriété que là où c'est pénible pour les gens? Mettre un pull en plus, réduire le chauffage, etc., manger moins de viande, réduire les loisirs. Pourquoi la sobriété, ce ne serait pas aussi réduire nos propres efforts au travail? Et ça, dans la dynamique un peu sociale antiproductiviste qui s'est manifestée lors de la réforme des retraites l'année dernière, on pourrait se dire que cette sobriété du travail, c'est finalement une façon de rassembler les gens.
Mais alors, vous parlez réforme des retraites, c'est l'argument d'allonger la durée du temps de travail du gouvernement, c'est justement, il faut financer, parce qu'il y a de plus en plus de retraités. On a l'ACEDI, pseudo-l'ACEDI sur franceinter.fr, qui nous dit « Je suis plutôt pour le droit à la paresse, mais ça pose quand même la question de qui pour nourrir les paresseux ?» Qu'est-ce que vous pouvez répondre, vous, Adrien Klent ?
On revient toujours à cette problématique quel temps aujourd'hui est vraiment utilisé pour nourrir les gens et quel temps est utilisé pour beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec nourrir les gens. Donc ce qu'il faut, c'est réellement déconstruire les chiffres qu'on nous oppose et surtout quand on a des gouvernements, on va dire ultralibéraux qui donc nous opposent des logiques soi-disant implacables, hein, le fameux there is no alternative de Thatcher, qui est en fait le même aujourd'hui, hein, il n'y a pas d'autre possibilité. En réalité, on sait bien qu'il y a d'autres façons de voir et de mesurer les choses, mais encore faudrait-il accepter de le faire. Et si vous voulez, le souci qu'on a souvent quand on a des discussions comme ça, voilà, dans des rencontres, les gens disent « Ah, mais il faut, machin, payer les retraites et tout. » Ouais, mais attendez, en fait, et faisons des propositions, et c'est vrai qu'on
Paul sait Mongetin, c'est ce que vous dites dans le livre.
Il y a des économistes qui travaillent là-dessus.
Hein,
le
libéralisme trouve toujours de bonnes raisons, de toute façon, hein, de devoir financer plutôt que d'accorder plus de temps.
Oui, et en fait, c'est vrai que je pense que la complexité du sujet de cette émission sur le lien entre travail et urgence écologique, c'est qu'on voit bien qu'il faut réorienter le travail, c'est-à-dire il faut à la fois sortir du productivisme, qui est une forme d'indifférence, d'aveuglement face aux limites planétaires, et en même temps, on a besoin de production et donc de travail pour accomplir la transition écologique. Et je réponds juste, terminer là-dessus, c'est qu'à l'Institut Rousseau, on pense que justement, pour accomplir cette bifurcation, la puissance publique a un rôle important à jouer. Et l'Institut Rousseau défend depuis 2021 une proposition pour la garantie à l'emploi vert, et qui consiste à dire, en fait, il y a énormément de besoins qui sont exprimés par la transition écologique, qui ne sont pas pourvus par la sphère marchande, par le marché du travail. Or, c'est du travail et il va falloir y répondre.
Et les valoriser, du coup.
Exactement.
Autre message sur ce même thème de Charles. Ce débat ne sera pas résolu tant que le calcul du PIB ne sera pas revu et corrigé. Aujourd'hui, seuls les travaux de bricolage et de jardinage, considérés comme masculins, sont pris en compte et sont exclus. Les travaux domestiques de ménage et d'éducation des enfants, considérés comme féminins, car ne permettent pas de valoriser un patrimoine. Il y a, Adrien Klent, un vrai travail de mesure à faire, finalement, sur ce qu'on ne considère pas comme du travail, mais qui pourtant en est.
Oui, oui. Moi, dans mon roman, déjà, je voulais rappeler que dans mon roman, c'est 15 heures hein, de travail par semaine. Donc, on est dans un objectif bien plus...
Emilien Long est un gros glandeur.
Voilà,
quand même,
hein. En tout cas, il propose une vraie sobriété et je pense qu'on ferait mieux de l'exercer. Non, et en effet, dans mon roman, il y a une autre proposition qui est de mesurer complètement autrement la croissance. Mesurer ce que moi, j'appelle une croissance nette, c'est-à-dire en fait en prenant en compte l'intégralité dans nos mesures des enjeux et notamment des enjeux écologiques. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend en compte, par exemple, la baisse de la biodiversité dans l'usage des pesticides, en fait, on se rend compte qu'ils valent beaucoup plus cher. En fait, c'est exactement ce que faisait Ivan Illich quand il mesurait, quand il disait qu'en fait, en voiture, on faisait du 14 km/h. Si on prenait en compte le temps qu'on devait travailler pour payer la voiture, en fait, la voiture roulait à 14 km/h. Donc, en fait, si on déconstruit, et non pas aux vitesses habituelles, si on déconstruit par les chiffres, en fait, la réalité, tout d'un coup, les gens sont obligés de regarder en face, en fait, le fait que ça n'est absolument pas vrai de dire que, par exemple, une agriculture avec pesticides, elle est productive. Non, en réalité, elle coûte très cher. Elle coûte cher aussi en cancer, elle coûte cher à la sécu, etc. Tout ça, il faut l'intégrer. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment faire un travail. On laisse tomber le PIB tel qu'on l'a utilisé pendant très longtemps. Timothée Parik, avec qui là je viens de dialoguer, il explique ça très bien dans son livre Ralentir ou périr. Le PIB, c'est la folie, en fait. Et on fonctionne en fait pour poser les enjeux de réflexion dans le champ politique actuel, mais je veux dire dans tous les partis. On utilise le PIB comme valeur de travail. C'est impossible, en fait. C'est un outil dont il a été montré et largement qu'il est complètement faussé et foireux. Donc il faut le mettre de côté et réinterroger complètement. Et justement, c'est pas pour être dans une logique utilitariste, mais pour... Moi, j'ai pas peur des chiffres. En fait, simplement, il faut que les chiffres, ils soient honnêtes. Et là, actuellement, on travaille dans des... Enfin, on a des dialogues, souvent, avec des gens qui nous sortent des chiffres qui sont complètement faussés parce qu'en fait, ils ne prennent pas en compte, justement, tous les effets négatifs des soi-disant progrès techniques, etc.
Autre message, Benjamin. Bonjour, j'ai fait le choix depuis environ un an de réduire mon temps de travail à 90%. Ça me permet d'avoir presque tous les mercredis en période scolaire. J'ai perdu environ 250 € par mois de salaire, mais j'ai gagné du temps avec mes enfants qui ne vont plus au centre aéré, donc moins de dépenses et j'ai plus de temps pour m'occuper d'eux et de mon jardin. Céline Marty, question encore, mais est-ce que malgré tout, il n'y a pas une dimension réservée à des gens qui sont un peu plus privilégiés. On parlait tout à l'heure des ouvriers. Est-ce que les ouvriers ont ce choix de réduire leur temps de travail à 90% quand ils sont au SMIC depuis 20 ans ?
Oui, bah justement, tout l'enjeu, c'est d'accorder cette liberté à tout le monde. Et c'était exactement l'argument pour la réduction du temps de travail dans les années 80, qui était de dire, actuellement, il y a des gens qui ont du temps libre. Russell dit ça dans les années 30. Il y a une aristocratie qui a du temps libre, qui en fait ce qu'elle veut, etc. Ce privilège, il faut en faire un droit. Et donc, ce choix d'arbitrage en disant « est-ce que je veux réduire mon temps de travail pour prendre du temps pour mes enfants, etc. », c'est un choix qu'on devrait pouvoir laisser à tout le monde.
C'est la question du revenu universel, par exemple ?
Oui, aussi. Ça, c'est finalement, c'est la
réponse,
question...
Comment on finance ça aussi ?
Non, mais de toute façon, la question du financement, elle a aussi été éminemment débattue. Et puis, on va pouvoir parler aussi du financement, de la non-adaptation de la France aux enjeux écologiques, etc. Mais en effet, le revenu universel, c'est aussi une façon de dire... de laisser le choix aux individus des activités auxquelles ils consacrent leur quotidien, et aussi en considérant qu'il n'y a pas à avoir de contrepartie productive sur un marché de l'emploi déclaré.
Mais ça fonctionnerait comment alors, très rapidement, un revenu universel hein, pour comprendre
La proposition qui est défendue par exemple par Russell dans les années 30 du revenu universel, c'est une allocation de ressources économiques inconditionnelle. Vous n'avez pas à justifier de ce que vous faites, ni de votre temps, ni de cet argent, et c'est une forme de redistribution des richesses. En fait, la question qu'on posait tout à l'heure sur les revenus, etc., c'est l'enjeu de la redistribution des richesses. Et l'enjeu de l'écologie, c'est aussi un enjeu de redistribution des richesses. Tout à l'heure, on disait, si vous êtes plus aisé, vous allez pouvoir consommer plus aussi sur votre temps libre, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous êtes déjà dans des arbitrages contraints. Mmh. Et donc, on voit bien qu'avec la question du travail, on touche à la question de la redistribution des
Adrien
richesses.
Adrien Klein, votre candidat à la présidentielle, Émilien Long, lui, il préconise justement de taxer les heures supplémentaires et limiter les écarts de salaire hein, aussi.
Bien sûr, ouais, il va bien falloir trouver des ressources, mais je pensais tout à l'heure en lisant Le Canard Enchaîné, vous avez peut-être vu cette petite brève comme quoi on a 18 nouveaux milliardaires en France, dont 4, en fait, ce sont tout simplement des enfants de milliardaires. Donc là, en termes de paresse, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, c'est-à-dire qu'en fait, on hérite du milliard de papa ou de maman. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une possibilité de trouver des ressources là où forcément des gens ne travaillent pas et ont beaucoup d'argent.
Alexine nous écrit « J'ai aimé votre livre, Adrien Klent. Par contre, le terme de paresse n'est-il pas trop péjoratif pour que l'idée de la réduction de travail ait vraiment une chance d'avancer ?»
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Cassandre nous écrit aussi, le mot paresse est mal choisi, il a une connotation péjorative. Si on utilise ce temps au bénévolat, par exemple, à aider les autres, ça devient une aide à la société, alors, société qui ferait des économies grâce à ça.
Ouais, moi, j'ai répondu à ça dans la suite de La paresse pour tous, ça s'appelle La vie est à nous, dans lequel, en effet, le président, une fois qu'il est élu et qu'il applique ce programme, invente un nouveau mot qui s'appelle la co-liberté, c'est-à-dire la liberté, mais ensemble. On est libre, on a moins de temps, moins de travail, mais en revanche, cette liberté, on doit en faire quelque chose pour la société, donc c'est co-libre.
Héloïse,
oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, finalement, la réponse est dans le second livre voilà. Et c'est vrai qu'il y a le mot paresse peut-être attire, hein, il est un peu provoquant, mais derrière il est réinterrogé finalement voilà, dans votre deuxième ouvrage.
En fait, il est très péjoratif, mais il est utile parce que justement, il permet de lancer le débat et d'obliger tout le monde à réfléchir.
Je vous donne un autre message, Laurent. Alors, je ne sais pas ce qu'il dit est vrai, mais il dit on réduit le temps de travail, mais on accepte donc de réduire le temps de vie en bonne santé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prouve que plus on travaille, plus on est en bonne santé ? Ce serait plutôt l'inverse, non ?
Là, ce que montre, par exemple, l'économiste Éloi Laurent, qui est sur des enjeux, enfin
qui était
sur les enjeux
dernière,
de santé justement, c'est que. D'une part, avec le réchauffement climatique, les conditions de travail vont drastiquement changer. On a déjà des études, on a une note de France Stratégie de l'an dernier qui montre qu'il y a déjà une baisse de la productivité horaire et il y a déjà des baisses de PIB imputables au réchauffement climatique puisque ça a des conséquences sur nos conditions de travail, sur notre état de fatigue, sur même nos capacités de récupération, de repos. Et Éloi Laurent dit clairement, un travailleur qui est né dans les années 70, il n'aura pas les mêmes conditions de vie qu'un travailleur né dans les années 2020, qui connaît des canicules tous les étés de sa vie, qui subit des sécheresses, etc. Donc de toute façon, les enjeux sur la santé, ils sont déjà là. Donc l'enjeu écologique, c'est un enjeu de santé publique aussi. Mais je pense que réduire le temps de travail, c'est aussi réduire la fatigue qu'on impose au corps. Puisque aujourd'hui, notre économie de surchauffe, elle se fait surchauffer les corps et les esprits aussi.
Paul Monjotin, justement, qui réclame aujourd'hui, majoritairement en tout cas, le changement du temps de travail ?
Oui, c'est intéressant comme question, parce que justement, je rebondis sur ce que disait Céline Marty. On constate, on le cite dans le livre, il y a un sondage
qui a été fait par Cluster 17, qui montre qu'effectivement, c'est parmi les ouvriers et les employés que l'approbation, le soutien à la semaine de 4 jours est le plus fort. Et ça, ça s'explique aussi pour une raison assez simple, c'est que c'est le sujet de notre livre, c'est on n'est pas égaux devant le temps libre. Nous, on considère le temps comme un capital, et ne serait-ce que la différence de vie entre un ouvrier et un cadre est de 6 ou 7 ans. Voilà, il y a énormément
ça
de
ça permet d'améliorer aussi ses conditions de
exactement.
Vie.
Exactement, hein. Et c'est une façon de redistribuer le temps en donnant à chacun un accès au temps libre.
Merci beaucoup à tous les quatre. On aurait eu encore largement besoin de temps supplémentaire pour discuter de cette question. Adrien Klein, vous êtes à Avignon là tout à l'heure.
Ah oui, oui, je file à la librairie Youpi. Ouais.
À 19h30, librairie Youpi. Et puis on peut vous lire. Donc La vie est à nous, Paresse pour tous, c'est chez Tripod. Céline Marty, Travaillez moins pour vivre mieux, c'est chez Duno. Et puis votre livre, Paul Monjotin, L'ère du temps libéré, les nouveaux possibles. Et bien sûr, on lit votre article, Héloïse Le Sier, sur reporter.net, notre confrère quotidien de l'écologie. Merci beaucoup à tous les quatre.
Merci. Merci.